une équilibrée, toi. Tu as une bonne petite caboche, ronde, nette et solide, comme je te l'ai répété souvent. Tu te calmeras. Mais quel ravage dans les cervelles! Si toi, bien portante, tu es troublée! N'as-tu donc pas la foi? Elle se taisait. Elle soupira, tandis qu'il ajoutait « Certes, au simple point de vue du bonheur, la foi est un solide bâton de voyage. Et la marche devient aisée et paisible quand on a la chance de la posséder. Eh, je ne sais plus, dit-elle. Il est des jours où je crois, il en est d'autres où je suis avec toi et avec tes livres. C'est toi qui m'as bouleversée, c'est par toi que je souffre. Et toute ma souffrance est là, peut-être, dans ma révolte contre toi que j'aime. Non, non, ne me dis rien, ne me dis pas que je me calmerai. Cela mériterait davantage en ce moment. Tu nies le surnaturel, le mystère, n'est-ce pas? Ce n'est que l'inexpliqué. Et même, tu concèdes qu'on ne saura jamais tout. Et dès lors, l'unique intérêt à vivre est la conquête sans fin sur l'inconnu, l'éternel effort pour savoir davantage. Ah, j'en sais trop déjà pour croire. Tu m'as déjà trop conquise. Et il y a des heures où il me semble que je vais en mourir. » Il lui avait pris la main, parmi l'herbe tiède, il la serrait violemment. « Mais c'est la vie qui te fait peur, petite fille. Et comme tu as raison de dire que l'unique bonheur est l'effort continu, car désormais, le repos dans l'ignorance est impossible. Aucune halte n'est à espérer. Aucune tranquillité dans l'aveuglement volontaire. Il faut marcher, marcher quand même, avec la vie qui marche toujours. Tout ce qu'on propose, les retours en arrière, les religions mortes, les religions replâtrées, aménagées selon les besoins nouveaux, sont un leurre. Connais donc la vie, aime-la, vis-la telle qu'elle doit être vécue. Il n'y a pas d'autre sagesse. » D'une secousse irritée, elle avait dégagé sa main, et sa voix exprima un dégoût frémissant. « La vie est abominable. Comment veux-tu que je la vive paisible et heureuse? C'est une clarté terrible que ta science jette sur le monde. Ton analyse descend dans toutes nos plaies humaines pour en étaler l'horreur. Tu dis tout, tu parles crûment, tu ne nous laisses que la nausée des êtres et des choses, sans aucune consolation possible. » Il l'interrompit d'un cri de conviction ardente. « Tout dire? Ah oui, pour tout connaître et tout guérir !» La colère la soulevait. Elle se mit sur son séant. « Si encore l'égalité et la justice existaient dans ta nature. Mais tu le reconnais toi-même, la vie est au plus fort. Le faible périt fatalement, parce qu'il est faible. Il n'y a pas deux êtres égaux, ni en santé, ni en beauté, ni en intelligence. C'est au petit bonheur de la rencontre, au hasard du choix. Et tout croule dès que la grande et sainte justice n'est plus. » « C'est vrai, dit-il à demi-voix, comme à lui-même. L'égalité n'existe pas. Une société qu'on baserait sur elle ne pourrait vivre. Pendant des siècles, on a cru remédier au mal par la charité. Mais le monde a craqué. Et aujourd'hui, on propose la justice. La nature est-elle juste? Je la crois plutôt logique. La logique est peut-être une justice naturelle et supérieure, allant droit à la somme du travail commun, au grand labeur final. « Alors, n'est-ce pas ? » cria-t-elle. La justice qui écrase l'individu pour le bonheur de la race, qui détruit l'espèce affaiblie pour l'engraissement de l'espèce triomphante. Non, non, c'est le crime. Il n'y a qu'ordure et que meurtre. Ce soir, à l'église, il avait raison. La terre est gâtée. La science n'en étale que la pourriture. C'est en haut qu'il faut nous réfugier tous. Ô maître, je t'en supplie, laisse-moi me sauver. Laisse-moi te sauver toi-même. Elle venait d'éclater en larmes, et le bruit de ses sanglots montait éperdu dans la pureté de la nuit. Vainement, il essaya de l'apaiser. Elle dominait sa voix. Écoute, maître, tu sais si je t'aime, car tu es tout pour moi. Et c'est de toi que vient mon tourment. J'ai de la peine à en étouffer. Lorsque je songe que nous ne sommes pas d'accord, que nous serions séparés à jamais si nous mourions tous les deux demain. Pourquoi ne veux-tu pas croire ? Il tâcha encore de la raisonner. Voyons, tu es folle, ma chérie. Mais elle s'était mise à genoux. Elle lui avait saisi les mains, elle s'attachait à lui, d'une étreinte enfiévrée. Et elle le suppliait plus haut, dans une clameur de désespoir telle que la campagne noire, au loin, en sanglotait. Écoute, il l'a dit à l'église, il faut changer sa vie et faire pénitence. Il faut tout brûler de ses erreurs passées. Oui, tes livres, tes dossiers, tes manuscrits. Fais ce sacrifice, maître, je t'en conjure à genoux. Et tu verras la délicieuse existence que nous mènerons ensemble. À la fin, il se révoltait. Non, c'est trop, tais-toi. Si tu m'entendras, maître, tu feras ce que je veux. Je t'assure que je suis horriblement malheureuse, même en t'aimant comme je t'aime. Il manque quelque chose dans notre tendresse. Jusqu'ici, elle a été vide et inutile, et j'ai l'irrésistible besoin de l'emplir. Oh, de tout ce qu'il y a de divin et d'éternel. Que peut-il nous manquer si ce n'est Dieu ? Agenouille-toi, prie avec moi. Il se dégagea, irrité à son tour. Tais-toi, tu déraisonnes. Je t'ai laissé libre, laisse-moi libre. Maître, maître, c'est notre bonheur que je veux. Je t'emporterai loin, très loin. Nous irons dans une solitude vivre en Dieu. Tais-toi ! Non, jamais ! Alors, ils restèrent un instant face à face, muets et menaçants. La souleillade autour d'eux élargissait son silence nocturne, les ombres légères de ses oliviers, les ténèbres de ses pins et de ses platanes, où chantait la voix attristée de la source. Et, sur leur tête, il semblait que le vaste ciel, criblé d'étoiles, eût pâli d'un frisson, malgré l'aube encore lointaine. Clotilde leva le bras, comme pour montrer l'infini de ce ciel frissonnant. Mais, d'un geste prompt, Pascal lui avait repris la main, la maintenait dans la sienne, vers la terre. Et il n'y eut d'ailleurs plus un mot prononcé. Ils étaient hors d'eux, violents et ennemis. C'était la brouille farouche.